Actu SF, les podcasts.
Alors, aujourd'hui on va parler du PIB. Mais le PIB c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire cet acronyme? Et je propose que ce soit la chef qui nous dise qu'est-ce que ça veut dire le PIB.
Alors donc ça veut dire le prix littéraire de l'imaginaire de Tuberza. Alors je suis pas vraiment la chef, hein, on est plusieurs organisateurs et on bosse tous très dur. Donc Tuberza c'est une application qui référence en fait les youtubeurs et les blogueurs littéraires. Et on a décidé de faire un prix qu'on a organisé donc à partir de l'année dernière, en septembre environ. Et depuis, l'aventure a pris et a très bien pris. Voilà.
Donc je vous présente donc Céline hein, qui gère l'application Booktubers App que vous trouvez sur toutes les plateformes qui recense les blogueurs, les booktubers, donc les gens du livre qui aiment les livres, qui les dévorent, qui les commentent, les critiquent et les chroniquent. À côté d'elle, on a Sangine. Sangine qui est autrice et chroniqueuse hein, et jurée pour le PIB.
Voilà.
C'est bien, j'ai bien résumé.
Parfait.
Et à côté, on a donc Ariel Holz et,
oui.
Et Estelle Pike.
Oui.
J'ai l'impression que je vous marie. Et Estelle Faye, donc, qui sont tous les deux nommés pour le prix et finalistes de ce prix d'imaginaire. On a souhaité, en fait, avec les aventuriales, mettre un peu en avant ce prix qui est un prix de lecteur. Donc, on trouve ça important que les lecteurs aient un peu voix au chapitre dans ces prix. Des fois, ils sont un peu snob et un peu lointains de nous. Et un prix d'imaginaire, ben, forcément, c'était pour nous. Donc du coup, je me suis rapprochée de Céline et on s'est dit qu'on allait faire un petit topo là-dessus. Aujourd'hui, on va donc parler d'abord du PIB. Tu nous as expliqué un petit peu la genèse, on va peut-être rentrer un tout petit peu dans les détails. D'où est venue l'idée, déjà, de ce prix?
Alors c'est une blogueuse booktubeuse qui est venue m'en parler. Comme elle savait que j'avais déjà fait des projets avec les influenceurs. Et ensuite, on a commencé à mettre en place, à chercher d'autres personnes pour organiser tout ça. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait, de cette idée de vouloir donner la parole, en fait, aux lecteurs, qui étaient aussi influenceurs sur Internet. Voilà, donc le prix, l'avantage, c'est que c'est vraiment les jurés qui décident de quel livre on va mettre dans le prix, et c'est ce qu'on trouvait le plus important, en fait.
Et justement, Sangine, je reviens à l'histoire des jurés. Comment tu as vécu le truc, toi, en tant que juré? Qu'est-ce que tu as fait exactement, etc., pour ce prix?
Voilà, ce qui est passionnant, c'est que justement, c'est nous qui proposons les livres, et après, il y a une présélection, et du coup, ça permet de découvrir plein d'auteurs, de livres que je n'aurais certainement pas regardé ou lu, ou tout le temps de m'arrêter dessus. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce prix.
C'est, comme on disait, c'est vraiment la parole au lecteur et ouais, c'est tout à fait, c'est intéressant. Et du coup, est-ce que dans les finalistes, t'en avais un que t'avais vraiment accroché? Est-ce que c'était un que t'avais mis en
Alors là, j'ai deux coups de cœur, donc j'hésite encore, j'ai pas encore voté, je me laisse jusqu'à demain, voilà, pour réfléchir et voter.
Dernier carat, quoi.
Ouais.
Dernier moment.
Ouais, ouais.
Et du coup, je reviens sur Céline. Au niveau d'organisation pure, ça a dû être compliqué quand même tout ça.
Alors c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'on a décidé en fait de vraiment mettre en avant toutes les chroniques qui vont être faites en fait pour tous les livres. Et donc on a créé un site internet exclusivement pour le prix littéraire et on a repris point de vue informatique, hein, je parle. On a repris le système de Booktubers App, c'est-à-dire on référence directement les articles et les vidéos sur les livres directement sur le site. Voilà. Et donc en fait on met en avant notamment les finalistes et on a organisé énormément de choses. Donc oui, c'est beaucoup de travail parce qu'il a fallu déjà chercher, prouver que c'était intéressant et que les jurés auraient leur voix. Ensuite on a organisé beaucoup d'interviews où justement ils ont eu chacun, je crois, je sais plus ce que c'était, des interviews, mais en tout cas il y en a eu 35. Et tout le long de l'année, on a eu des grandes organisations de projets autour de ce prix pour en arriver à la fin aux lectures obligatoires donc des finalistes. Et demain, il y a le dernier qui sera pour voter.
Il y a toujours voilà. Qui font au dernier moment, hein. C'est normal.
Oui, il y en a beaucoup.
Et juste, maintenant, je vais juste passer un tout petit peu la parole au finaliste. Et qui veut commencer?
Bon, bah allez.
Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce prix-là, comme ça, au débeauté?
Bah, déjà que c'était une très bonne initiative. Et en plus, disons, il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées. Je vois depuis que je suis auteur, en plus, dans les genres imaginaires, en gros, fantastique, fantasy, SF, enfin, je pense qu'on est beaucoup aimé ici, l'importance vraiment des lecteurs, l'importance du bouche-à-oreille, et notamment sur Internet, où on a très peu de presse généraliste avec des gros guillemets, enfin, on n'est pas dans les journaux papier, on n'est pas à la télévision, mais par contre, on a des vrais lecteurs qui parlent sur Internet et qui parlent en étant des vrais passionnés. C'est-à-dire, ils vont pas parler d'un livre parce que ça fait bien ou parce que tel ou tel a dit qu'il fallait absolument en dire du bien. C'est vraiment, on sent que c'est une passion qu'ils vont partager, on sent qu'ils ont une grosse culture aussi derrière, que c'est vraiment des gros lecteurs, ils lisent beaucoup plus que moi, j'ai un peu honte. Et voilà, et là, c'est vraiment cette sphère Internet que je vois représenter et je vois tout ce qu'elle a fait pour mes livres. Et en plus, pour la petite histoire, donc là, c'est Seigneur de Bohème qui est finaliste. Au départ, c'était vraiment un one-shot, je jure. Simplement, il a eu un tellement bon accueil des lecteurs et surtout un tellement bon retour sur Internet que, alors que c'est un petit peu un pavé, il a eu un super bon démarrage. Il y a une super bonne énergie autour dès sa sortie qui fait que, alors que ça devait être en one-shot, quelques mois après sa sortie, on se lançait dans un deuxième roman dans le même univers avec l'éditeur que je suis en train de finir en ce moment. Je dois envoyer le manuscrit la semaine prochaine, vu les cernes. Mais voilà, et ça, c'est vraiment, c'est rendu possible grâce à tout ce bouche à oreille là, voilà, vous êtes vraiment des représentantes émérites. Et pour finir, j'aime beaucoup aussi un truc dans la sélection, c'est qu'elle est très variée, elle représente vraiment la variété de l'imaginaire. Parce qu'on est des littératures où les gens qui ne connaissent pas disent souvent c'est un peu cliché, c'est un peu toujours les mêmes choses. Alors que là, ne serait-ce qu'entre le livre d'Ariel et le mien, il y a un univers, quoi. Et puis donc, voilà, enfin, il y a des toutes petites maisons d'édition, comme des vraiment grosses. Il y a de la fantaisie, du fantastique, d'autres choses. Enfin, il y a toute cette variété-là, il y a du young adulte, de l'adulte. Et elle est vraiment bien présentée.
Et juste, du coup, j'interviens pour poser une question à Ariel, comme ça, non, Ariel. Et justement, Estelle évoque le fait qu'il y a des mondes différents, et justement, c'est un monde complètement différent de celui d'Estelle. Et avec le prix, est-ce que tu as vu des lecteurs venir en plus? Est-ce que tu as eu plus d'opportunités? Ou c'était trop difficile pour que tu le sentes
Alors, comme l'a dit Estelle, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment se passer des réseaux sociaux pour tout ce qui est bouche à oreille dans le milieu de la littérature, surtout que moi je viens pas d'une très grande maison d'édition, donc voilà, c'est particulièrement important. Et oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de lectrices, beaucoup de lecteurs qui sont venus en salon, qui m'ont dit j'ai entendu parler de vous grâce au prix, comme ils auraient pu l'entendre par une influenceuse, une booktubeuse, voilà. Et oui, effectivement, il y a des retombées positives. Pour revenir encore une fois sur ce que disait Estelle, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est donc la sélection très éclectique, le fait que soit confronté dans le carré final, donc parmi les sept, à des New Yorker best-sellers qui vendent à plus d'un million d'exemplaires, et puis nous qui sommes là, bon, c'est assez satisfaisant pour l'ego, c'est très sympathique de voir que ça plaît quand même. C'est pas parce qu'on n'est pas forcément américain ou anglo-saxon que tout ce qu'on écrit n'est pas lu dans l'imaginaire. Et puis aussi, c'est là, de façon un peu plus sur le travail d'écriture lui-même, c'est d'avoir cette masse de critiques, justement, qui sont structurées par le fait de devoir voter pour un choix final. Ça permet, bon, on peut aller voir ses propres critiques, c'est très sympa, c'est les propres vidéos. Mais ce qui est plus intéressant pour moi, c'est de comparer sur le même booktubeuse, par exemple, sa vidéo de mon roman avec celle des autres. Les autres finalistes, et de voir qu'est-ce qui lui a plu dans l'un, et la comparaison, ça permet un peu de prendre le pouls de ce qui plaît, de comment on pourrait améliorer son prochain roman. Bon, voilà, pour moi, ça t'apprend importance, ça aussi.
Je rebondis dessus, encore une fois.
Quand on lit, en fait, une lecture comme ça, pour nous, pour nous faire plaisir, on a moins l'aspect du détail. Et c'est vrai que lors du prix, ça a été... été pour beaucoup de lectrices, en fait, je dis lectrices, mais il y a des livres également, attention, ça a été beaucoup comment je vais faire, parce que là, c'est vrai que c'est un prix d'imaginaire, on ne peut pas dire, voilà, c'est. Je vois, c'est ça, voilà, c'est dans l'obligation de se dire, bon, attention, là, on est dans le cadre d'un prix, et donc on pousse un petit peu notre lecture avec l'analyse que ça nous oblige. À avoir,
oui, oui, complètement. Bah, ça reste des réactions un peu moins épidermiques. On va moins avoir de j'ai beaucoup aimé, c'est génial. Ça va être j'ai beaucoup aimé parce que
voilà. Bah,
oui. On prend des notes. Oui. J'imagine que vous avez donné une taille finale. Oui. Ou,
non, non, pas, non alors on a laissé vraiment libre chacun de. D'ailleurs, on découvre nous-mêmes sur le site directement les chroniques, les vidéos, les articles. Et c'est vrai qu'on se hâte d'aller voir et de lire, de se dire. Ah oui, effectivement, moi aussi, j'ai ressenti ça, etc. Et c'est vrai qu'on va plus dans le détail. Voilà, c'est le côté détail qui est, pour moi, qui a été très fort, en fait, dans ce... même si on a organisé tout, mais je veux dire que nous, en tant que jeu, aussi, on l'a vécu.
On pense quoi, si on était d'accord avec
C'est vrai qu'on n'est pas pour se faire plaisir, là, on est plus, on s'en met plus dans l'histoire, on est plus à prendre des notes, en tout cas, moi, pour me rappeler, j'ai pas une phrase, un mot-clé qui m'a vraiment plu. Mettre en avant dans la chronique.
Ouais. Et du coup, je reviens à cette histoire de détails. C'est, on sent bien un prix de lecteur, on est d'accord. Et tu parlais du fait que vous découvriez les chroniques en même temps que tous ceux qui sont sur le site, en fait, c'est ça? Et du coup, ça fonctionne comment? Un peu de technique.
Au point de vue informatique, c'est en fait mon conjoint qui s'occupe informatiquement, qui a créé le site. En fait, il récupère une partie de Booktuber Vert, donc de notre base de données, et on a un système de code. On met des hashtags PIP 2018 pour le PIP 2018, hein, et le hashtag ISBN, donc avec FreshShip. Et en fait, ça se fait automatiquement parce que je sais qui est juré dans ma base. Voilà. Donc, c'est vraiment mon point de vue technique, c'est mon mari qui s'en occupe. Et toutes les chroniques, en fait, se retrouvent sur chaque page de livre et dans son ensemble. Et c'est vrai que, on nous prévient pas en fait quand ça sort, donc on découvre au fur et à mesure et on se dit ah elle a aimé, elle a pas aimé, voilà.
Du coup j'imagine que ça doit être, comme tu disais Ariel, ce côté assez enrichissant de découvrir des lectures qu'on n'aurait pas forcément lues, même en tant que sélectionné finalement, de découvrir d'autres auteurs, etc., d'autres univers.
Alors effectivement oui, il y a cet aspect d'une part, et puis aussi de découvrir des chroniques qu'on n'aurait pas forcément retrouvées, parce que j'ai beaucoup aimé la page qui agrège toutes les chroniques sur le site du Plib, parce que parfois c'est compliqué d'être
au fait de... d'avoir les bonnes références.
Voilà, et effectivement, au niveau des lectures qu'on n'aurait pas forcément rapprochées de son propre travail, ça permet d'un peu d'étendre son point de vue.
Et un truc que tu as dit aussi tout à l'heure qui m'a un peu interpellée, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'au final ce prix, donc il est éclectique, on a compris, avec une sélection très variée, et c'est aussi intéressant parce que il n'y a pas que des New Yorkers best-sellers, il y a aussi des Français. Et c'est vrai que dans certains prix, on ne les voit pas trop, les Français, surtout les prix de l'imaginaire, il y en a des purement Français, c'est-à-dire que des auteurs français, il y en a où c'est un peu mélangé, mais on ne les voit pas trop, et là c'est vraiment, j'ai l'impression que la sélection elle est équilibrée finalement. Qu'est-ce qu'on pense?
Il y a 4 Français de mémoire, 4 Français et 2 Américains. Il y a par contre un grand équilibre du point de vue femmes et hommes.
C'est un très bon ratio.
Voilà. 4 Il y a 4 et 3 femmes, donc 4 femmes et 3 hommes.
Du coup, c'est un prix presque par hasard. Et puis vraiment aussi, ce qui m'a touchée, c'est peut-être en tant que lectrice. On a une grande richesse de maisons d'édition en France aussi. Et là, de voir que cette richesse de maisons d'édition-là était représentée, qu'il n'y avait pas les maisons d'édition qu'on va retrouver à plein d'endroits parce que c'est celles qui ont un peu plus de lien sur eux, quoi. Mais qu'il peut y avoir de la maison d'édition qui depuis est devenue référence dans son domaine, comme le Chat Noir, mais qui n'a pas la force de frappe par exemple Shades of Magic,
de lui-même.
Voilà, de voir qu'il y a Rebelle qui mine de rien,
qu'on ne croise pas vraiment en librairie, mais quand je les croise en festival, ils ont une très très grande palette, et voir qu'eux aussi peuvent être là, ils peuvent être représentés et tout, ça donne une vision du lectorat en plus qui est... On voit des lecteurs curieux, on voit des lecteurs qui ne vont pas s'arrêter au fait qu'il y a une grande force de frappe, qu'il y a une grande force donc commerciale derrière, mais qu'avant tout, il y a des maisons qui font un vrai boulot de qualité, un vrai boulot de recherche. Et ça fait super plaisir, parce qu'en tant que lectrice, c'est aussi ça que j'adore dans le paysage qu'on a en France, c'est qu'on a des maisons de toutes les tailles où on peut trouver des bouquins énormes et des coups de cœur partout, quoi. Et ça, c'est vraiment bien représenté.
Oui, c'est vrai que la phase de présélection est assez importante, parce qu'en fait, chaque jury propose 3 titres. Donc ça peut être n'importe lequel, et à partir du moment où le livre est cité une fois, il est dans la présélection, donc il n'y a pas besoin de se voter 20 fois pour lui. Et ensuite, bon, là, l'année dernière, on avait fait un peu, c'était un peu trop gros, on est passé de 88 titres à 7. Cette année, on a décidé de changer, on passe de 88 titres, enfin, ça sera peut-être une centaine, je pense, environ, à 20 titres, en fait, il y aura une phase intermédiaire. Et c'est vrai que, bah en fait, les jurés qui sont sont déjà en train de chercher des titres qui ne sont pas très connus, en fait, pour les mettre, justement. Alors, même si on va, ils ne sont peut-être pas finis, je n'en sais rien, on verra quand tout le monde aura voté, mais au moins, on en parle. On le met en avant comme ça aussi.
C'est justement, bah, j'en reviens là-dessus, c'est un des seuls prix actuellement où on a une représentation aussi diverse et variée d'éditions françaises en imaginaire. Avec, et je pense aussi, c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire cette conférence aux aventuriers, parce qu'on a aussi à cœur, comme le disait le président pendant l'inauguration, à mettre en avant aussi les petites maisons qui n'ont pas forcément, ou les moyennes, les moyens d'avoir un diffuseur ou l'envie d'avoir un diffuseur en librairie et qui peuvent rencontrer leurs lecteurs à travers des événements, ou à travers des événements aussi filmés, donc, avec une sphère plus. Diffusé parce que bon, malgré tout, le salon ça reste régional, alors qu'Internet, enfin, on est dans l'international. Donc, même si bon, on va dire, il n'y a pas trop les Américains qui viennent voir nos sites français, hein, on est d'accord, mais quoique. Ah, il y en a quand même. Et du coup, je reviens là-dessus aussi. Est-ce qu'il y a des consignes pour les jurés en particulier, ou est-ce qu'ils sont libres de proposer ce qu'ils veulent? Est-ce qu'il y a des contraintes sur les propositions? Et est-ce qu'il y a contraintes pour être juré? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être juré déjà?
Il faut tout simplement s'inscrire, il faut être influenceur littéraire, donc avoir un blog. Maintenant, on ouvre Instagram ou une chaîne YouTube. Donc, c'est pas non plus. On ne demande pas en fait qu'il y ait de quantité d'abonnés, donc vous pouvez même ouvrir un blog juste pour ça, si vous avez envie, il n'y a pas de souci. On nous acceptera. On a eu l'année dernière des incertitudes sur certains jurés qui ne lisaient absolument pas d'imaginaire, mais qu'on savait, qu'on connaissait, qui ne lisaient pas d'imaginaire. On ne les force pas à stopper. On leur dit juste, attention, c'est bien un peu d'imaginaire, donc il faut savoir quand même lire les 7 livres à la fin. Mais sinon, voilà, on ouvre la porte à tout le monde. Pour ce qui est de cette année, pour les livres qui seront en présélection, par contre, ça ne sera que francophone. On a décidé.
Oui, vous avez resserré les taux.
On a resserré tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que durant toute la phase de présélection, les jurés eux-mêmes étaient fâchés de ne pas mettre en avant plus la littérature française. Ce qui fait qu'on a, décidé donc, de nous simplifier la vie. Puis je dois dire que c'est quand même, bon, même si Lee Schwab, donc pour lui-même, Chef d'œuvre magique, a eu une interview, on a eu la chance d'avoir une interview d'elle pour le film, mais c'est beaucoup plus compliqué de voir les Américains, de les avoir avec nous pour les finalistes et pour l'armée de feu. Et c'est vrai que les jurés ont préféré s'orienter sur du francophone. Donc on a dit, on se lance cette année sur le francophone.
C'est une très bonne idée.
Après, voilà, je pense que les jurés sont vraiment libres, ils proposent les titres qu'ils veulent. Par contre, il faut que ce soit donc, de 2018 pour le prix de 2019.
Du coup, il y a des dates butoirs, je suppose, au niveau de la sortie, ou c'est juste toute l'année?
C'est toute l'année. Même s'ils n'ont pas été lus, vous pouvez les proposer. Ensuite, il faut que ce soit donc francophone, un premier tome ou un spin-off.
On avait évité le troisième tome d'une trilogie parce
que le Seigneur de Bohème devait être un seul tome.
Je lui jure, ça l'était.
Mais il y a beaucoup de jurés qui seront très ravis de voir qu'il y a la suite qui arrive. Et voilà, c'est tout approximativement. Après, nous, on fait le gros travail derrière pour vérifier tout ça. Et on fait la liste et ensuite.
Et alors l'équipe de base du PIB, plutôt les on va dire administrateurs, c'est qui du coup?
Alors donc vous avez Pauline de la chaîne Patatra, qui est une youtubeuse. Vous avez Hélène Titel, qui est une youtubeuse là, qui est blogueuse et youtubeuse. Et moi et mon mari, voilà.
Les quatre piliers.
Voilà, voilà, alors c'est plus... Je ne vais pas le cacher, c'est plus les filles qui bossent. Parce qu'en fait, mon mari, s'occupant que de la partie informatique, c'est pas tous les jours qu'on a besoin de changer quoi que ce soit sur le site.
Mais heureusement.
Heureusement. Parce que ça serait un peu dur. Donc voilà, c'est plus nous trois qui nous concertons. Je dois dire tous les jours qu'ils ont besoin. Bonjour.
C'est l'excuse pour papoter, ça, non?
Non.
Et. Moi, j'ai bien envie qu'on parle de nos finalistes un petit peu, parce qu'ils sont là sur la table ronde, ils vont pas se tourner les pouces, ils vont parler un petit peu de ça avec nous. Et alors, Ariel, tu nous expliques un peu qu'est-ce que c'est les cercles carminants?
Alors, les cercles carminants, donc en genre, c'est du young adult, de l'urban fantasy, dans un univers victorien. On compare ça souvent à l'univers de Tim Burton. C'est une comparaison assez satisfaisante, mais effectivement, c'est pas mal inspiré. Donc, c'est trois sœurs dont la mère a disparu et qui essaient de survivre dans une ville qui s'appelle Grisaille. Grisaille, c'est une ville un peu particulière puisque tout le monde dans cette ville est plus ou moins un peu un psychopathe. Tout le monde s'entretue pour un oui, pour un non. Il y a plus de 250 cimetières parce que tout le monde n'arrête pas de mourir. Il y a des fantômes qui se baladent un peu partout, les conséquences de tous ces meurtres. Et c'est une ville qui est inspirée un peu de Londres du 19e et de Paris du 17-18e siècle pour tout ce qui est le côté aristocratie et noblesse. En fait, c'est des familles nobles qui se disputent le trône de la ville. Et dans ce premier tome, on va suivre la sœur du milieu parmi ces trois sœurs, qui s'appelle Mary Vert. Et elle, c'est Montanlère. Montanlère, c'est une cambrioleuse qui est spécialisée dans les cambriolages de manoirs par les profs. Et à la suite de son dernier cambriolage, qui se passe d'une façon assez catastrophique, elle va se retrouver avec, pour seul butin, une petite cuillère en argent, qui ne vaut pas grand-chose, malheureusement, si le métal est plutôt sympathique. Et ce qu'elle ignore, c'est que cette petite cuillère est très importante pour toutes les familles aristocratiques de la ville, et elle se retrouve mêlée au cœur d'un complot, en fait, pour le trône. Et elle va devoir s'enfuir et survivre contre toutes ces familles qui vont essayer de récupérer la petite cuillère. Voilà. En gros, c'est ça. Et elle a surtout donc une grande sœur de 19-20 ans. Donc, la première s'appelle Tristabelle, qui est une beauté très clairement sociopathe. Et elle est complètement dans la logique de la ville, comparée à Mary Vert, qui elle est une héroïne plutôt déviante par rapport au reste de la ville, puisqu'elle, elle a une moralité. Et elle n'aime pas trop tuer les gens, même si ça lui arrive accidentellement parfois. Et la petite dernière, qui elle s'appelle Dolorine, qui a 8 ans, et qui a la particularité de pouvoir voir les fantômes, et surtout qui est accompagnée d'une poupée qui, à l'instar du reste de la ville, est elle aussi psychopathe, qui est sans doute son amie imaginaire, ou peut-être que c'est la partie psychopathe de Dolorine qui lui parle tout le temps et qui lui dit de faire des bêtises, comme de... mettre le feu aux robes de ses sœurs ou de mettre des scorpions dans leurs oreillers pendant qu'elles dorment. Voilà, et qu'elles n'écoutent pas forcément. Et cette petite sœur, un peu plus perspicace que les autres, va vivre des aventures en parallèle de ses deux grandes sœurs qui, elles, vont être plutôt liées par l'intrigue. Et elle raconte ses aventures dans un journal intime. Et bien sûr, les aventures de la petite vont rejoindre les aventures des deux grandes. Voilà.
Franchement, je vous loupe pas. Génial. Estelle, c'est bien un poème?
Alors moi, on est dans la fantaisie, assez sombre, donc c'est un peu gros, et parce que c'est un an qui voit la chute d'un empire, d'un printemps à un printemps. On est dans une ambiance un peu Europe de l'Est, au tournant Moyen-Âge-Renaissance, mais simplement comme c'est de la fantaisie, ce qui est génial, c'est qu'on peut complètement étendre les distances. Donc il y a par exemple le Cernachernik, la capitale, qui est une ville grande comme un pays, avec au centre le palais d'Ambreverk, le siège des empereurs. Et on dit que certains soirs, quand le soleil se reflète sur sa façade, Son rayonnement se voit jusqu'au fin fond de la steppe, c'est le rayon vert du crépuscule. Et évidemment, il y a les bas quartiers qui sont beaucoup moins beaux. Les bas quartiers avec les cimetières qui s'enfoncent dans le fleuve, et au fond du fleuve reposent les golems de glaise qu'autrefois animaient la magie des Essènes. Mais les Essènes ont renoncé au pouvoir des mots, ils l'ont déclaré hérétique. Il y a aussi autour de Cernachernik une muraille qui est grande comme une colline, et au-dessus de cette muraille, des conques qui n'ont plus jamais sonné depuis 10 siècles. Et on dit que quand elles sonneront à nouveau, ce sera peut-être un peu l'apocalypse. Voilà, alors ça c'est qu'une des parties de ce monde qui est donc assez immense, qui est beaucoup inspirée de tout ce qu'est mythe, contes et légendes et folklore d'Europe de l'Est, que j'ai découvert notamment lors de voyages et beaucoup intéressée. C'est un moment aussi où on voit changer une civilisation. C'est le début des armes à poudre, même si elles ne sont pas utilisées par tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de préjugés dessus, et puis elles sont assez dures à manier. Si on n'a pas quelqu'un qui a un vrai bon artificier, on peut se faire sauter soi-même plutôt que se faire sauter l'armée ennemie, c'est un peu ballot. Donc c'est le tournant aussi, c'est le début de l'imprimerie, c'est le début des livres qui circulent, des idées nouvelles qui remettent un peu en cause les fondamentaux de l'Empire. Donc en gros, l'histoire de l'Empire, c'est que 1000 ans plus tôt, les Vaums, les dragons d'ombre, asservissaient les hommes, et le premier empereur, Ardent le Pieux, avec le pouvoir de la lumière, qui est devenu le dieu local, a renversé les Vaums et fondé l'Empire. Bon, évidemment, l'histoire, en vrai, est un peu plus compliquée, un peu moins claire. L'Empire, donc, dure depuis 10 siècles, croit qu'il va pouvoir durer 10 siècles. Et ça, c'est l'année qui raconte sa fin. Et ma touche personnelle, enfin, ce à quoi je crois aussi en fantasy, c'est que cette fin va être amenée par 4 personnages, qui sont pas du tout les héros archétypaux, et que personne n'attendait, et qui eux-mêmes attendaient absolument pas ça de même cette année-là. On leur aurait dit, vous allez renverser un empire, ils n'auraient pas cru. Et évidemment, ça va aussi complètement bouleverser leur. Voilà.
J'espère que ça vous a donné envie, en tout cas, de lire et de découvrir. Du coup, tu peux, Céline, revenir sur les autres finalistes. Et tu tombes là, donc on parlait quand même.
Oui, alors on a donc deux Américains, Shadow of Magic, donc de Lee Schwab chez lui-même. On a aussi La Faucheuse de Neil Chesterman, Collection R. On a Rebelle, qui a très bien marché, aussi de Oksana Hope, l'Eden's Tunnel. On a Le Souffle de Midas, d'Alison Germain, qui est aussi aux éditions du Chinois. Et Sirius, oui. Sirius de Stéphane Savant, chez l'édition Le Rouergue. Donc c'est vraiment
c'est un grand panel, et puis ce qu'on disait aussi, c'est éclectique en termes de cible de lecture.
Oui, alors, c'est vrai que c'est classé young adulte, il y a eu beaucoup de discussions sur ce classement young adulte pour les sœurs Carmine, parce que bon, certaines personnes n'ont pas trouvé que c'était vraiment si young adulte que ça. Et finalement, dans les 7 finalistes, il y a plusieurs young adultes qui sont dans le même terme. Voilà, donc. Mais il y a eu du jeunesse comme du très adulte avec Les Seigneurs de Bohème qui, je crois, est le plus adulte pour le coup. Voilà.
Après, c'est toujours ce qu'on dit, hein, la littérature jeunesse dans les adultes, c'est toujours à partir de. Mais bon.
Oui.
Mais bon, à partir de 15 ans, parce que young adulte, comme on dit toujours, c'est à partir de 15 ans à peu près. Et c'est vrai qu'on a quelques jeunes hommes et jeunes femmes de 15 ans, est-ce qu'ils sont prêts à dire ça? On n'est pas.
Oui, il y a eu certains titres qui vont. Bon, voilà, les jurés ont trouvé que c'était pas si jeunesse que ça, au final. Donc on était ravis, au contraire, c'est ce qui nous plaît le plus, donc il n'y a pas de soucis.
Juste pour l'anecdote, le texte des Sœurs Carmine à l'origine n'a pas été écrit pour du young adult, mais quand je l'ai proposé à mon éditeur, il lançait une collection jeunesse, un label plus exactement jeunesse, et m'a demandé de retravailler un peu le texte, ce que j'ai vaguement fait, donc je sais que je vais faire ça, ça reste accessible. Il y a plusieurs niveaux de lecture.
Et ça, c'est bien. Je reviens donc, du coup, pour ce clip 2018. On est donc sur la fin de l'édition 1.
Oui, maintenant, c'est demain le vote, n'est-ce pas? J'ai encore du jury qui, je crois qu'il y a la jury, je ne sais plus si tu... Ah oui, tu as le bon, voilà, il y a des jurys qui ont déjà voté. plusieurs, en fait. Il y a, voilà, demain, c'est le dernier jour. Et puis après, personne ne le saura à part les organisateurs, n'est-ce pas?
Ils sortiraient avec des bonbons.
Non, personne ne pourra nous faire dire quoi que ce soit.
On a dit dernier mot pour
Oui, non, mais non. Et voilà. Et ensuite, on a donc la remise de prix. Je peux dire que voilà, on aura la remise de prix le 13 octobre à Lyon, en présence d'Ariel Destel, de Rod Marty, de Nick Ruberto Sanke et de Vincent Tassi et de Jean Vigne. Voilà. Qui seront là pour. Et Alice Saint-Germain, pardon, oui, je me disais, il manque une finaliste. Voilà, qui nous font le plaisir et la chance d'être présents. D'ailleurs, Alice Saint-Germain, je dois dire qu'elle a beaucoup aidé à la communication, d'ailleurs. Et aussi, hein, mais Alice est quand même.
Elle est aussi, elle est youtubeuse au départ.
Elle a une grosse communauté. Et c'est vrai qu'on a la chance, voilà, de pouvoir faire la remise de prix. Et c'est là qu'on va annoncer le gagnant. Et je ne dis pas comment ça se déroulera, mais on a une petite surprise à ce moment-là. Et j'espère que ça fera plaisir à tout le monde.
Alors du coup, cette remise de prix, ça a été un peu un combat pour terminer.
Ça a été un sacré challenge, parce qu'en fait, on ne savait pas comment allait le faire. On a eu des situations qui ont fait que les organisateurs entre eux ne pouvaient pas savoir si ou non on allait le faire. Et au final, on a décidé un petit peu en juin. On a fait un questionnaire auprès tout simplement des jurés et puis d'autres personnes qui ont tous voulu avoir la remise de prix en présence des finalistes, n'est-ce pas? Et donc, on a tout fait pour monter un dossier de sponsors, pour trouver des sponsors. Je remercie d'ailleurs tous nos sponsors qui nous ont beaucoup aidés, des maisons d'édition comme les éditions du Chat Noir qui nous ont aidés, Scriméo, qui on a choisi beaucoup, forcément. Mais,
et Marabout, Gulfstream, Lynx.
Castelmore aussi nous a aidés, Marathon Édition, les éditions du Petit Caveau, enfin il y a beaucoup de maisons d'édition qui nous ont aidés, qui ont cru en notre projet, et ensuite on a fait une opération Ulule. Donc moi je n'étais plus du côté sponsor, et Pauline s'est plus occupée du côté opération Ulule, et Hélène, navigant entre les deux, a beaucoup travaillé pour trouver aussi les sponsors et les auteurs, et voilà, peut-être qu'il va d'ailleurs, je pense, contacté. Et maintenant on est à 98%, donc je pense qu'on peut dire que ça se fera.
Elle se termine quand, tu te rends compte?
Dans 5 jours.
Donc allez-y, donc, tous les dons à partir de 5 euros sur Ulule, oui. N'hésitez pas.
Et donc la remise de prix sera ouverte à tous, hein, donc on ne fait pas exclusivement aux jurés, donc il suffira de s'inscrire pour dire voilà, je souhaite participer, donc vous pouvez venir. Il y aura tous ces auteurs pour vous accueillir, donc n'est-ce pas? Et puis, ça se fera dans une ambiance un peu. Ça ne sera pas comme un salon, hein. Il n'y aura pas de vente de livres, hein. Ça sera plus. On navigue dans les flots et discuter tous ensemble. Voilà.
Il y a des auteurs qui parlent beaucoup dans l'eau. Hein. Elle est tout au bout là-bas.
Justement, pour faire parler un peu les auteurs et les autres, non, je propose qu'on vous pose quelques questions. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez des questions par hasard? Sont dans la salle pour les auteurs, pour les jurés, pour l'organisation. Quelques questions? Vous avez été apparemment hyper clair, personne n'a de questions. Et du coup, je pense qu'on va arrêter là. On finit un peu en avance, mais je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter?
Peut-être ça a apporté énormément de choses. Hein. Je pense même en relation, que ce soit entre les jurés eux-mêmes, je pense qu'on a un autre juré présent derrière qui pourra en témoigner. Nous, en tant qu'organisateurs, on a été bloqués par certains jurés qui nous ont fait des vidéos incroyables, et des articles aussi, des sacrés articles. Et puis l'accueil en fait des auteurs. Voilà. Je trouve que c'est vraiment une bonne expérience. En plus, on a un groupe quand même qui, où on a bien échangé. Enfin, je pense qu'on.
Donc c'est une belle expérience. Soyez jurés, ce sera très bien. Merci à tous.
Merci.